Paris, jeudi 16 novembre.
Et que je me souviens juste d'une scène en fait où on écoutait du Gurn en fait en cours. Il y a un moment donné, on avait mis une oreillette toutes les deux comme ça.
Rebelle, hein. Ok, on faisait ça.
Ultra punk, quoi.
Ouais, je pense que c'est mon max de punkitude.
La carte et le territoire. Un podcast de Clémence Bayot d'Estivo. Charlotte Planchou.
Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Clémence.
Merci d'être venue jusqu'à moi ce soir, sous la pluie.
Merci pour l'accueil.
Charlotte, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de nous raconter ce que tu fais dans la vie.
Je suis chanteuse dans le domaine du jazz. Et donc je chante dans le domaine du jazz.
Est-ce que tu viens du jazz ?
Non, je viens de la musique classique. Et quand j'avais 25 ans, j'étais dans une compagnie d'opéra avant. Et du coup, t'es au courant.
Moi oui, mais tout le monde.
Et du coup après j'ai joué dans la rue avec des amis, un peu un été par hasard, à Paris plage, etc. Et je connaissais 10 standards et... Et en fait, après qu'on chantait dans la rue les standards, on allait dans les clubs continuer, quoi. Le soir, les jams, faire la fête, etc., etc. Et franchement, je venais du classique et je trouvais la vie tellement, tellement cool, quoi. en plus de faire un art qui était hyper, hyper intéressant. Et du coup, j'ai switché, quoi.
Ça s'est fait facilement ?
Je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que... Enfin, je me suis pas dit j'ai un nouveau plan de carrière, tu vois. C'est juste que j'ai chanté, quoi. On m'a dit, mais oui, il y a le BSL, on peut bien. J'ai commencé à rencontrer des gens, viens, on fait des concerts, etc. Donc petit à petit, j'ai switché. Et voilà, quoi. Je sais pas si c'était très dur. Après, je pouvais plus revenir au lyrique, par contre, parce que vocalement, c'est un peu...
Ouais, c'est deux mondes.
C'est deux mondes.
Et puis ça s'entend, quelqu'un qui fait que du lyrique et qui se met à faire de la chanson.
Ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai gommé un peu du vibrato, quand même. J'essaye, je continue. Mais là, c'est plus par souci. En ce moment, je me pose la question de l'effet. J'aimerais bien gommer le plus possible les effets. J'en ai marre des effets. Et le vibrato en fait un peu partie, quand même. Voilà.
De revenir à un chant le plus spontané possible.
Ouais, le plus direct possible. Ouais. Vraiment. Je trouve que ce qui est bien avec la musique, c'est que la mélodie et le rythme fait déjà le travail, on va dire, théâtral, quoi. Et du coup, je pense que c'est pas la peine de rajouter une surinterprétation, ce que j'ai un peu parfois tendance à faire. Et ça passe par les effets, etc. Donc, bon, voilà, j'essaie de... C'est un peu mon trip hein, du moment.
Trop bien. Alors, tu le sais, l'émission s'appelle La carte et le territoire, même s'il a fallu que je te le rappelle en préparant l'émission.
Oui.
Et je vais te demander de me donner une ou plusieurs définitions du mot territoire. Personnel.
Personnel, non.
Ah non, bon, pas personnel.
Parce que personnel, en fait, je me suis aperçue que c'est un mot dans lequel il n'y a pas beaucoup de passion pour moi. Enfin, c'est pas une question, une problématique que je me suis vraiment posée, parce que j'ai... je suis née en Allemagne, je suis venue en France, j'ai passé la frontière 150 fois sans m'en apercevoir. Et en plus, j'avais un passeport européen, donc tous les voyages que j'ai faits, cette notion de territoire, je sais pas quoi, dire de personnel dessus. Mais en ce moment, puisqu'on enregistre l'émission au moment où il y a le conflit israélo-palestinien, c'est une question qui est centrale et je parle avec plein d'amis qui, eux, par contre, sont traversés vraiment par cette question de manière intime et personnelle, identitaire, quoi. Voilà, donc je pourrais agiter mes neurones et réfléchir à cette question, mais elle est, je sais pas quoi dire, à part que il me semble que la définition, c'est un espace délimité par une frontière, ça.
Ouais. Voilà. Ça, c'est si on parle de territoire géographique. Et si on va plutôt vers des territoires esthétiques, parce que tu as commencé l'émission en parlant du classique et du jazz.
Ah.
Enfin, moi, je reprends tes mots, mais tu peux développer. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des territoires esthétiques?
Est-ce qu'il y a des territoires esthétiques? Oui, bien sûr qu'il y en a. Évidemment qu'il y en a. Parce qu'on n'a pas défini territoire, mais oui, il y a des langages, des esthétiques, des territoires. Territoire au sens quoi, ça veut dire?
Toi, tu m'as dit un territoire, c'est un espace avec des frontières.
Ah oui.
Et du coup,
est-ce qu'il y a des frontières? Oui, bien sûr. En fait, j'ai repris pas mal de morceaux un peu de partout là, l'année dernière. Par exemple, toujours des chansons sur lesquelles mon attention s'arrêtait. Pas tout un répertoire, mais par exemple une chanson capverdienne. Il y avait une chanson géorgienne. Il y a eu Purcell, un truc de Purcell qui me passionne. Dans Courtevaille, le cabaret allemand, etc., etc. Et donc, voilà, dans mon répertoire, sur scène, il y avait des trucs qui venaient un petit peu de partout. Et je jouais de la guitare. Et un jour, ça a été très clair pour moi. J'ai joué un morceau capverdien. Et je sentais que, en fait, dans leur façon de chanter, il y avait une espèce de... Ça traînait un peu... Enfin, il y a le saudage, en fait, qu'on entend dans la signature vocale, enfin, dans les effets qui mènent dans la voix. Et j'ai... En fait, de plus en plus, j'avais envie de le faire, ce truc-là. Et j'ai commencé à le faire sur scène, et j'ai aperçu le sentiment du saudage en allant vers cet effet. Et je me suis dit, ah ouais, non mais d'accord, le fait de l'apercevoir, j'en étais très très loin. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même un langage et porte quand même une énergie d'un territoire, quoi. Mmh. C'est pas très grave de le reprendre, hein, mais c'est juste que ce sera autre chose, quoi. Ce sera une autre... Et d'ailleurs, par là même, ça m'intéressait plus trop, bizarrement, de chanter ça.
Parce que tu sentais que ça t'échapperait toujours?
Non, parce que ce saudage-là était pas... C'est pas celui-là, en fait, que j'avais envie de chanter, je crois, au fond.
Du coup, est-ce qu'il y a des répertoires dans lesquels tu te sens plus à l'aise et qui sont, de fait, plus ton territoire artistique? T'as parlé de Purcell, et je sais que t'as une formation classique, donc est-ce que Purcell, c'est la maison?
C'est la maison. La seule maison, c'est par-delà ces langages-là, parce qu'en fait, ce qui est, je pense que dans tous les territoires, en fait, on raconte tous la même chose, mais pas de la même manière, en fait. C'est ça, ce que je pense. Donc la seule maison, c'est ce que j'ai envie de raconter. Et du coup, je me réapproprie la chanson. Mais c'est vraiment le... Je dirais que c'est la mélodie et le texte, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais là avant, le texte... Et moi, je suis une fan de Schubert, et chez Schubert, c'est l'excellence de ça. Le rapport entre le texte et la mélodie et transmet ce qu'on a à dire... et le point de vue de ce message, enfin, je sais pas comment...
Si, Schubert, il souligne tout le sous-texte, en plus du texte.
Oui.
Est-ce que tu voulais dire ça, ou est-ce que c'est ce que je comprends?
Oui, c'est voilà. Ça.
Ouais, il est trop fort. Il donne à la fois l'émotion du personnage et son point de vue de narrateur, qui est parfois divergent.
Oui, c'est ça. Exactement.
J'y suis arrivée.
Exactement. Non, mais j'avais même pas pensé à ça, mais c'est exactement ça, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut enlever le plus d'effets possible pour... voilà.
Pour chanter Schubert, et en général.
Schubert, c'est sûr, mais après, il faut retrouver des partitions qui soient aussi bien écrites. Bon, c'est difficile, mais... ouais, la question, c'est ça. C'est trouver des partitions qui sont bien écrites, je dirais. Voilà.
Et à part Schubert, est-ce que t'as des perles?
Des perles? Dans les standards, il y en a pas mal. Hein.
Ouais.
Il y a pas mal de standards qui sont extrêmement bien écrits. Genre, Someone to Watch Over Me, tellement de choses. Mais en tout cas, moi, ce que je chante, c'est des choses d'un peu partout. En ce moment, je suis vachement sur la musique occitane parce qu'il y a des choses rythmiquement hyper intéressantes. Mmh. Et pareil, dans un rapport au texte qui est passionnant. Donc c'est mon grand prochain chantier, je dirais.
En occitan?
Ouais. Occitan, je parle de vraiment la musique trad, les chansons traditionnelles.
Ah oui,
okay. Ouais. Chansons traditionnelles, et puis certains Rosina de Peyre. Et en fait, il y a aussi des chanteurs folkloriques des années 60-70 qui ont écrit des choses aussi qui sont très intéressantes. Et j'aimerais vraiment, un jour, parce que je veux continuer un peu à faire des recherches, faire un projet à travers l'Occitan, parce que c'est dans cette musique-là que ça s'exprime le mieux, mais qui exprime ce que j'aimerais bien faire passer comme message, c'est que je trouve que c'est comme ça que je choisis d'ailleurs ça, ma maison, c'est comme ça que je choisis mes chansons, je pense. Je trouve que j'ai un peu une vision de la société qui est un peu en perte de sacré, et que et un sentiment de lutte aussi là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans la musique occitane qui renvoient à ça.
C'est le lien au sacré, tu veux dire au spirituel, ou à ce qui nous lie et au moment de communion, qui serait pas forcément spirituel, mais plus communautaire.
Tu veux dire au moment de jouer, c'est ça?
Ouais.
Non, c'est pas ça. C'est dans la musique occitane, il y a des chansons qui parlent de ça, du sacré. Donc ça, c'est intéressant. Et puis dans les standards qui parlent tout simplement d'amour, de cette manière-là, ça révèle que y a un caractère sacré, beau dans l'amour, et pas juste un rapport consommation, Tinder, machin. Enfin là, on est en train de s'éloigner de quelque chose de... C'est dommage, parce que c'est beaucoup plus... J'ai presque envie de dire, c'est beaucoup plus sexy même, en fait. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus riche de voir la vie avec sous le prisme de la beauté que celui de... Je sais pas, entre la représentation de la femme, la représentation des gens, des rapports entre les gens, tout ce qu'on voit là, c'est en train de s'appauvrir, quoi.
Du coup, tu préfères vivre dans un lit de Schubert. On y est bien en même temps.
Certainement que c'est parce que je vis dans ce monde-là que Schubert, ça m'a totalement foudroyé aussi, hein, je pense. Non, mais je vis pas du tout dans un lit de Schubert. Ah si, peut-être d'ailleurs, parce que la belle manière qui est... D'ailleurs, c'est la belle manière, vraiment. Ce que je préfère, c'est immense, quoi. Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que ça... Il y a un rapport un peu avec la société d'aujourd'hui, en fait, dans la belle manière. C'est quand même un mec qui part, qui a le cœur pur, dans le sens où il rencontre une fille et voilà, il s'émerveille de cet amour. Oh, mais il y a des passages incroyables, incroyables. D'ailleurs, on est... incroyable, il y a des passages incroyables. Il y a un passage, par exemple, où il se réveille à côté d'elle, et elle se met sous la couette, comme ça. Et, bon, musicalement, c'est déjà incroyable. Et elle se cache comme ça sous la couette, et lui, il lui dit... Guten Morgen, schöne Müller. Il dit bonjour. Tout d'un coup, pourquoi tu te mets sous ta couette, pourquoi tu te caches comme ça, comme si j'avais fait quelque chose? Est-ce que ta tête s'est mal mise sur le coussin? Alors dans ce cas, je m'en vais, tu vois, genre, je m'en vais, je reviens plus tard. Et donc, elle, bien sûr, elle part avec le chasseur, voilà. Qui, voilà, à mon avis, il a des tatouages partout, c'est ça. Il se fait friendzoner, machin. Et à la fin, il rentre chez lui, et bon, la théorie de tout le monde, c'est qu'il suicide. Moi, je pense pas, parce que sinon, on passe à côté de toute l'œuvre. Il rentre chez lui, et voilà, c'est le chagrin d'amour, donc c'est un des pires trucs, je pense, au monde. Donc bon, le restant de sa vie ne va plus être pareil du tout. Et il s'endort, il regarde la lune, et machin, et c'est ça. Et ouais, c'est le poète, en fait, quoi. Mmh. Le poète qui est, en fait, le prince. Les princes, aujourd'hui, je trouve, sont dans le caniveau, voilà. C'est ça, ce que je pense. C'est que ceux-là sont... Bon, est-ce que c'est pas ça qui est beau, mais ils ne sont pas les gagnants, quoi. Enfin, bon, je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou si c'est... Voilà.
Et tu penses que ça a déjà pas été le cas ?
Oui, non, peut-être pas, peut-être que ça n'a jamais été le cas, oui.
Bah, je sais pas si Schubert, c'était le numéro 10 de sa team, tu vois. je pense pas. Je pense qu'il se faisait bien friendzoner.
Ouais. Ouais. Mais par exemple, je trouve toute l'époque, Patrick Devers, tout ça, là, tous ces gars-là, Simone Signoret, machin, c'est des gens, je trouve, qui parlaient quand même du vrai truc, je sais pas comment dire.
Ils étaient romantiques, avec un grand R.
Ouais, est-ce que c'est ça? Ouais, je sais pas. Mais ouais, peut-être. Mais de toute façon, les vrais romantiques se cachent, quoi. Ils vont pas... J'aime pas trop ça. Je trouve que, pour moi, les poètes, ils font la poésie pour eux, ils le font pas pour les autres, parce que ceux qui font ça, c'est des connards. Enfin, tu te caches de faire la poésie. Ou c'est comme, tu dis pas, moi, je suis zèbre, je suis hyper sensible. Ben non. T'es sensible, tu portes ta croix, et puis c'est tout, tu vois.
Est-ce que t'as tourné le dos au classique, maintenant, du coup ?
Je peux plus chanter de classique, hein. C'est... j'aurais plus la technique. En plus, je me suis intéressée au son un peu sale, etc., vocalement. Donc, je pourrais plus chanter du classique, à part du Kurt Weill, tu vois.
Ça t'éloigne ou ça te rapproche de Schubert ?
Mais jamais j'ai été ni éloignée ni proche. Je suis en fusion totale. non, mais... Enfin, je sais pas si ça t'arrive, toi, d'avoir des... T'as l'impression d'être connecté à des gens. Enfin, c'est très bizarre, ou à des... J'ai un pote qui est connecté à Chet Baker, par exemple. Il y en a un. Ça m'a pas rapproché. Je me suis souvent dit qu'il y avait rien de plus grand que Schubert, donc... Ça m'a conforté là-dedans, malheureusement. C'est comme ça.
Mais tu pourrais le travailler dans un projet futur ?
Mais j'y ai pensé... Oui. J'ai pensé, mais... J'ai travaillé avec Ismaël Marguin, qui est un pianiste de classique. J'ai travaillé des pièces de classique. Et quand on travaillait, lui, comme il fait un peu de jazz, moi, je tenais vraiment à ce qu'on n'ouvre pas trop, quoi. À ce qu'on reste sur la partition, parce que c'est ça que je trouve incroyable. C'est l'écriture, quoi, dans le classique, quoi. Et Schubert, non, j'ai pas... Peut-être, je sais pas, peut-être un jour, mais là, je me permettrai pas.
Tout à l'heure, tu parlais du sodage, et ça me faisait penser au rapport à la langue. Est-ce que tu parlais de géorgien et tout, est-ce qu'à chaque fois, tu apprends la langue, en tout cas des rudiments, ou est-ce que parfois, tu te laisses faire par la sonorité et par les formants que tu essayes de trouver pour faire sonner la chanson ?
Ouais, je par la sonorité. J'apprends pas la langue... J'apprends pas la langue. Mais un jour, c'est des fulgurances. Je sais que c'est un peu polémique. Hein, il s'agit de... Comment on appelle ça ? Récupération culturelle ?
Appropriation.
Appropriation culturelle. Vraiment, la bourgeoise française. Comment appelle-t-on ça ? Appropriation culturelle ?
C'est comme ça que vous dites, les
gauchos. C'est comme ça que vous dites. Non, mais un jour, c'est vraiment des passions, en fait. Ça veut pas dire que... Enfin, c'est parce que je... Comment dire ? J'ai pas l'impression de me l'approprier. En fait, j'ai pas l'impression... J'aime pas, par exemple, quand on s'intéresse à moi en tant qu'artiste, tu vois, interprète, tu vois. Quand je chante un standard, tu vois. J'ai plus l'impression de dire, écoutez, là, il faut que ce message-là, vous voyez, c'est ça, en fait, qu'il est en train de dire, là. Et donc, la chanson géorgienne... Je suis tombée un été sur un morceau et je pense que pendant 24 heures, j'étais en PLS, j'ai pleuré pendant 24 heures sur ce morceau. C'est pas possible, la musique géorgienne. Après, je me suis retrouvée sur le net géorgien et j'ai vu, je pense, toutes les vidéos qu'il y avait à voir de la tante, la fille qui filme sa tante au portable, qui joue. Enfin, c'est incroyable, la musique là-bas. Et donc, j'ai commencé à apprendre un petit peu en mettant pause sur YouTube et en essayant de par phonétique. Et oui, parce qu'il n'y avait pas c'est un autre alphabet et tout. Et puis un jour, je suis allée dans je sais pas si c'est très bien de dire ça, mais je suis allée dans un restaurant géorgien parce que je connaissais pas le géorgien et je voulais qu'ils me disent le texte et tout. Je suis allée voir, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez... Et le pauvre, je lui ai dit, il faut que vous écoutiez, que vous écriviez. Enfin, il comprenait rien ce que je lui demandais, tu vois. Et il m'a regardé, il fait, non, mais c'est un restaurant ici, en fait.
Donc, c'est pas l'INALCO.
C'est ça, c'est ça. Donc bon, j'ai jamais réussi, etc., machin. Et ouais, j'apprends les... Mais en fait, des petites... Moi, ma mère, elle m'a mise au chant parce que dans la voiture, je relevais les chansons en anglais de la radio. Tu vois, comme... Et tout, et très vite, tu vois, donc...
c'est ta méthode, en fait.
C'est, voilà, inné, naturel.
C'est
une
méthodologie qui passe par le yaourt et qui s'affine, c'est de la sculpture vocale. Voilà. C'est une grande approche pédagogique, c'est novateur, ce sera au Planchetou Institute. Et donc, l'allemand, c'est ta langue maternelle ?
Ouais.
Ou c'est l'allemand et le français ?
L'allemand et le français.
Les deux, parce que t'as les père français et maman allemande.
C'est ça.
Est-ce que ça influence beaucoup ta manière de penser?
Le fait d'être bilingue.
Ouais, et biculturel.
Ouais.
Parce que t'as habité dans les deux pays.
Oui. Ouais, pendant un moment, je savais pas trop. J'avais un peu des problèmes identitaires. Et je me demandais si ça venait pas de là. Ce qui est très très riche et à la fois un peu déstabilisant, c'est de grandir dans deux cultures qui sont très différentes. Parce que les deux pays sont collés, mais les cultures sont très différentes.
Ils sont pas latins, les Allemands.
Les Allemands sont pas latins, non. Le rapport à la tradition, le rapport au capitalisme, enfin je veux dire à la politique, c'est pas le même qu'en France, quoi. Le rapport le rapport au gouvernement, le rapport donc et aux traditions en même temps, c'est il y a vraiment des choses et la langue aussi et puis le passé de ces deux pays mon grand-père il supportait pas à la fin de sa vie quand il perdait la tête il supportait pas d'entendre ma mère parler allemand il devenait fou quoi. Mais parce qu'il avait des rappels, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est très, très, très intéressant. Et c'est un peu déstabilisant parfois aussi. Maintenant, ça l'est plus, c'est bon. Mais j'ai pas l'impression d'avoir une racine. Mais c'est comme la France, en fait. Hein. J'ai pas l'impression... parce que comme j'ai grandi quand même beaucoup à Paris, c'est une ville multiculturelle. Et j'ai été entourée de gens de partout, puisque c'est un pays d'immigration, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir une racine très claire, tu vois. Nous, on est je pourrais pas dire, moi je suis du sud-ouest, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Non, parce que je suis aussi allemande et que j'ai grandi à Paris, où, aujourd'hui chez moi, c'est pas ça, tu vois.
C'est ça qui te donne envie d'aller fouiller du côté de la musique occitane ou d'autres musiques trad?
Non, la musique occitane, c'est parce que j'avais pas assez de consonnes dans la musique française. Dans la musique occitane, j'ai trouvé la solution parce qu'il y a que ça.
Voilà. Ouais.
C'était pour ça. Moi, je cherche pas du tout mon identité dans la musique. Donc je vais pas me dire ah tiens je vais aller non c'est je tombe le type de Télérama il avait dit ça mais il avait raison il a dit elle rentre dans un restaurant elle ressort avec une chanson bon mais c'est un peu con mais c'est comme ça c'est je sais pas pourquoi c'est il y a des grâces comme on sait jamais pourquoi des grâces s'opèrent quoi on rencontre une chanson ou une musique ou quelqu'un et il y a un truc qui se passe et voilà
que t'avais pas trouvé avec l'allemand
si j'adore l'allemand. J'adore Kurt Weill, j'adore le cabaret allemand. Parce qu'en plus, j'ai un peu une âme punk et que c'est là où ça s'exprime le plus intelligemment dans le cabaret allemand. C'est des femmes qui tuent des hommes hein, dans le cabaret allemand ou qui fantasment là-dessus. C'est vraiment avant l'heure, c'est des femmes dans lesquelles je me reconnais. Et puis l'allemand permet ça, quoi. Mais je vais sûrement en faire un sur mon prochain disque d'ailleurs. Mais je me souviens, j'avais fait une fois ça. Pendant un concert, j'avais mis 3 Kurt Weill. Et je crois que c'était trop agressif pour les gens, quoi. Et pourtant, c'était pas la façon du cabaret berlinois, quoi. Mais c'était trop... je sais pas. Les gens, ils ont pas compris, quoi. C'est pas du tout leur culture. Voilà.
Et tu le chantais en français ?
Non,
en allemand.
Ouais, je mettais quelques phrases en anglais pour qu'on comprenne quand même à peu près où on était.
Ouais, c'était trop loin pour eux.
Ouais, c'était trop loin. Mais c'est ça aussi qui est très étrange. Quand on a deux cultures, je sais pas comment l'expliquer, mais le fait d'avoir grandi avec la langue... Ça permet de comprendre la culture dans son sang, en fait, je sais pas, dans sa chair. Il y a un truc qui est... c'est comme le lied allemand, quoi. C'est quand on est allemand, on le... Je sais pas comment expliquer. On comprend mieux, quoi.
Ça veut dire que si on ne grandit pas dans une langue ou dans une culture, il y a une essence qu'on ne pourra jamais atteindre, tu penses ?
Je sais pas. Je pense que si, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent proches d'une culture comme ça, ou comme des gens qui se sentent, qui sont hommes et qui se sentent femmes, quoi. Je pense qu'il y a des choses comme ça que je peux pas expliquer, que je sais pas, quoi. Mais moi, pour moi, la musique capverdienne, le saoudage, bon, c'est, je le... Non, je l'ai même pas effleuré, quoi. Je l'entends bien, hein, j'entends bien, quand j'écoute la musique cubaine, ça me met par terre, quoi. Jamais je chanterai ça comme ça, c'est sûr, quoi. C'est tout un contexte, en fait. C'est, on peut en parler des heures, mais c'est tout un contexte politique, le climat, la société, enfin... La tradition, voilà.
Un son, un groove.
Un esprit, quoi, du coup, ouais.
Et qu'est-ce que tu penses de la traduction, alors ?
Ah ouais, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Par exemple, je pense que si on traduisait le cabaret allemand en français, ce serait une catastrophe, quoi. C'est pas... C'est ça, c'est que la langue, elle porte une musique... Mmh. C'est pas possible. Il n'y a que Ferré qui, moi, m'intéresse dans ce côté un peu de révolte. Ouais, c'est le seul... Je suis complètement fan de Ferré.
Ouais.
Et pour le coup, je chante beaucoup ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de choisir un morceau. Avant, là, pendant quelques temps, je mettais des trucs au répertoire, comme ça, dès que mon cœur, machin, s'emballait, je chantais une chanson sur scène, tu vois. Et maintenant, vraiment, je fais attention, je veux construire un répertoire et le garder longtemps sur une tournée, tu vois. Et c'est pour ça que je fais très attention, c'est un peu l'objet de mon prochain disque, je fais un peu attention à ce que je vais choisir.
Pas trop de coups de tête, pas trop de coups de cœur, choix de raison.
Je vais garder un espace sur scène pour avoir des coups de tête et des coups de cœur, parce que c'est très important, pour la simple et bonne raison qu'il y a des chansons qu'on a l'impression de devoir chanter maintenant tout de suite. Parce qu'on s'est fait larguer la veille, parce que y a un truc politique qui fait qu'il faut qu'on chante Smile absolument ce jour-là,
ouais.
Machin, etc. Ça, pour moi, c'est hyper important de garder cet espace, qui est complètement improvisé, ouais. Moi, je veux garder 2-3 chansons, bon, pour l'instant, c'est 1-2, mais où je puisse dire au groupe... en fait, on rajoute ça au programme, là, aujourd'hui. Parce que je sais que là, j'ai un truc à dire dessus.
Je t'ai apporté des cartes que tu as sous la main. Pour que tu me racontes ton histoire géographique. Donc, t'as dit que t'étais franco-allemande, que ta maman est allemande, que t'es née en Allemagne, en fait.
Ouais.
On peut partir de là, si tu veux. D'ailleurs, je voulais te demander, même si t'es née après la chute du mur, de quelle Allemagne tu as hérité ?
Oui, non, j'ai pas connu la RDA.
Non, je sais, je connais ton année de naissance. Puisqu'on a eu le bac la même année.
Ah, bah oui, oui, oui. Bah oui. Je suis née à Hambourg, en Sarre, donc c'est près de la France, c'est très francophile. Et voilà, et vers à 5 ans, je suis venue en France.
Ah oui, mais t'es venue super jeune, en fait.
Ouais, je suis venue super jeune. Après, j'ai tout le temps fait les allers-retours, on faisait tout le temps les allers-retours avec ma mère. Parce que je crois que... Ouais, on faisait tout le temps les allers-retours avec ma mère. Je me souviens le nombre de voitures là, que j'ai fait. Et puis, après, j'ai étudié en Suisse. Suisse allemande. Voilà, ma vie, mon œuvre.
Et ta jeunesse à Paris ? Est-ce que ça a été un choc des cultures ?
Ouais, je suis pas très adaptée à Paris, quoi. Ouais. Ah, ma mère était prof, elle était assistante de prof aveugle de musique, donc elle avait une dérogation et j'étais allée à Victor Duruy dans le 7e.
Ah ouais.
Et après j'ai fait horaires aménagés à Racine
Avec toi. Avec moi. On était ensemble en latin.
Oui.
Ouais, latin-allemand.
Latin-allemand. Latin-allemand.
Des proches, quoi. Et faut ouais. Nous imaginer le samedi à 8h du mat, avec nos écouteurs dans la manche, tellement on était punk.
Oui, c'est ça.
À écouter du Mathias Gorn, parce que punk, mais pas trop, quoi.
Archi-punk, ouais. Archi-punk.
Ouais, trop vénère.
Trop bien. Ouais, Paris, c'est chiant un peu quand même.
Pourquoi ?
Parce que c'est trop... Les gens sont trop intelligents ici. Ils sont trop cultivés, ils manipulent des concepts, des machins. Donc c'est bien des concepts politiques, philosophiques. Et du coup, à la fin, j'ai l'impression qu'ils sont plus capables de juste s'affronter pour des valeurs simples, quoi. Je sais pas, parfois je me dis... Je suis pas adaptée, quoi, je sais pas.
Tu voudrais te battre pour quelle valeur, toi ?
Ah, moi, je voudrais me battre tout court. La bagarre. Non, je rigole. Me battre pour des valeurs. Non, c'est pas pour des. Enfin, c'est pas pour des. C'est pas pour du militantisme. C'est juste, il y a des choses qui me semblent parfois évidentes. Évidentes. Ben, comme tout ce qu'on retourne dans le féminisme, dans le machin. Bon, ça me semble des trucs évidents. Et quand ça arrive devant nos yeux, ou quand on entend des histoires, des machins, là, on commence à discuter, réfléchir, machin, mais est-ce que tu crois pas que tu rigoles ? Ben non, c'est très simple en fait, il s'est passé ça. Il y a une passion qui me traverse dans les trucs un peu d'injustice qui peut me rendre un peu malade, quoi. Et je comprends pas que tout simplement. Toute cette réflexion parfois me dépasse un peu, quoi. Voilà. Dans le Sud-Ouest, j'ai l'impression que ça c'est assez vite réglé, les histoires. Enfin, c'est peut-être un peu dans mon imaginaire, mais parce que j'ai aussi une attache avec le Sud-Ouest, je me sens beaucoup mieux là-bas, par exemple.
Ouais.
J'ai vraiment l'impression d'être compris, qu'on se comprend. Il y a des choses qui semblent évidentes, quoi. Ça, on fait, ça, on fait pas. La chanson de Nougaro, c'est exactement ça, quoi. Mmh. On se traite de con à peine qu'on se traite. Ici, même les mémés aiment la castagne. Mais il y a une espèce de truc de loyauté, de valeur amicale, etc. Et donc, ça claque très vite les portes, etc. Mais au moins, je sais pas comment dire, ça passe pas par le lavage du cerveau, de repasser le concept dans la droite, et puis après, on sait plus. Ouais. Où on retrouve, on a déconstruit pour reconstruire. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc...
Un truc de franchise, peut-être ?
Oui, oui. C'est surtout l'honnêteté, ouais, l'authenticité. Parce que l'authenticité, c'est pas forcément ouvrir sa gueule, tu vois. L'authenticité, il y a des gens qui sont timides et authentiques, et des gens qui sont pudiques, etc. C'est juste que c'est les trucs un peu fourbes et un peu compliqués, machin. Ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai du mal à dealer et que parfois à Paris, j'ai l'impression qu'il y a ça autour. Et les choses que je comprends pas me font du mal, voilà. C'est ça, en fait. Après, les choses que je comprends aussi, ignobles soient-elles, parfois je m'en réfère à la nature humaine et j'espère que la société va évoluer, évidemment. Mais voilà, donc soit je m'éloigne, soit je dis ce que j'ai à dire, parce que je peux pas faire autrement. Et enfin, le milieu de la musique, quand même, il y a aussi des... Il y a franchement aussi des gens super, quoi.
Ouais. Toi, tu viens du milieu de la maîtrise. Est-ce que en allant vers le milieu du jazz, t'as eu la sensation de retrouver l'élan collectif ?
Mais moi, quand je suis avec le quartet, je suis pareil, je suis devant un orchestre, en gros. Enfin, je suis avec un orchestre. Le genre collectif...
Tu le rapprocherais, toi, de la manière de chanter quand t'étais chanteuse d'opéra ?
Oui, carrément, complètement. Pas opéra, hein, plus musique de chambre.
Oui.
Mais oui, complètement. C'est pour ça que c'est le seul... Enfin, le jazz, c'est le seul que je rapprocherai de la musique classique, contrairement à la pop, parce qu'il y a... Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que ça va aussi loin, quoi. Mais oui, c'est pour ça aussi que je suis allée vers le jazz, parce que j'avais l'impression que c'était encore de l'interprétation de chansons bien écrites, avec de la musique de... Enfin, une formation de chambre, on va dire. Sauf que la seule différence pour moi, c'est que l'introduction qui est faite par le pianiste, tu vois, est une proposition différente à chaque fois. Et que du coup, l'interprétation va être différente à chaque fois. Et c'est du coup la culture de l'instant présent. Mais quoique, parfois, je me dis qu'un interprète de classique certainement fait un peu pareil, même si c'est écrit. Je sais pas pourquoi.
Globalement, je pense que pour apprécier une interprétation classique, il faut un peu d'éducation.
Ouais.
De sensibilisation, c'est pas évident du premier coup. En jazz, c'est vrai que c'est plus voyant,
enfin, ouais.
C'est puisqu'il y a une modification du phrasé.
Ouais.
Oui, la question c'est, est-ce qu'en jazz t'es interprète ou est-ce que t'es créatrice ?
Ouais.
Avec un standard.
Moi, je modifie pas beaucoup la mélodie, donc je pense que je suis interprète. C'est plus... Sauf que je ne suis pas forcément interprète de la composition seule, puisque le pianiste compose avec le compositeur lui-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il met en couleur la mélodie comme il a envie de le faire. Et moi, tout ce que je fais, c'est que cette couleur, me donne envie de chanter ce mot un peu différemment, mais la note va pas tellement changer en fait. Ça paraît bizarre, mais c'est ça pour moi, c'est ce qu'il y a comme de créateur dans le jazz, quoi.
Et tu composes, toi ?
Ouais, j'ai composé, je fais plus trop, mais j'ai composé, ouais. En ce moment, c'est pas trop mon trip, mais ça va peut-être revenir.
Tu laisses venir ?
Ouais.
C'est une épreuve d'écrire pour toi ?
Bah non, puisque quand c'est une épreuve, je fais autre chose.
Ouais.
Je suis très flemmarde, ouais. Je fais que les trucs un peu évidents, ouais. Si, le texte est une épreuve. Souvent, j'avais le début, la fin. Donc, c'est-à-dire ce qu'il faut que les gens sachent au début et à la fin. Et après, tout le milieu, et ça, c'est une galère. Ça.
Donc, c'est l'histoire qui compte.
La narration, ouais.
Ouais.
Trouver les mots, ouais. Après, c'est les chansons. Hein.
Mais une chanson, ça peut bouleverser une vie.
Ouais, je sais pas.
Bah regarde, toi t'as rencontré Schubert, il y a bien des gens qui rencontrent Charlotte Planchot.
Ah oui, mais non, mais attends, non mais là... Non, oui. Enfin, j'ai pas rencontré Schubert, j'étais foudroyée par Schubert, quoi.
À quel âge ?
17 ans.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah oui, je t'ai rencontré pile poil.
Ouais, pile poil, ouais. Mais plusieurs fois, hein, j'ai été... Je suis plus subjuguée par la découverte, mais par contre, quand je l'écoute, et je l'écoute peu... Parce que je peux pas écouter Bill Evans et Schubert du matin au soir, sinon. Je sais pas, sinon c'est plus sacré en fait. Mais je pleure instantanément, quoi. Et c'est des larmes, c'est très étrange. Parce que c'est des larmes blanches, presque de. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, de. Tu sais, c'est grand. Tu vois, ce truc de. Oh, genre, c'est immense, quoi, d'avoir fait ça, quoi.
Pour voix et piano.
Ouais, c'est ça.
Enfin, de faire tenir tout ça, en fait, dans ce petit écrin. Parce que c'est une chose de faire de l'immense avec un orchestre et un chœur.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Respect quand même, mais.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Mais de faire tenir un monde dans un narrateur et un piano, c'est. Ouais.
Bah, c'est... En fait, c'est ça qui me bouleverse, c'est que du coup, ce qui est grand, c'est la toute petite nature humaine, quoi.
Mm.
Et c'est ça qui devient immense et ça révèle une certaine. Moi, j'ai toujours eu l'image comme ça depuis 17 ans, là, quand j'ai écouté la première fois. J'avais l'impression qu'à la fin du dernier de La Belle Meunière, en fait, Schubert, il tirait sa révérence comme ça, alors qu'il n'est pas dans l'histoire, hein, devant la nature humaine. C'est-à-dire, c'est comme ça, quoi. Il y a un truc un peu... Et ça, c'est foudroyant, quoi. Enfin bon... Alors...
Est-ce qu'il y a des voyages qui t'ont marqué ?
Ouais, j'étais dans une chorale où j'ai voyagé deux fois par an. On allait dans un pays. Donc j'ai fait Cuba, Mexique, Guatemala, Maroc, Argentine, Chili, Hongrie, bref.
À quel âge ? Très jeune, en fait.
Ouais, très jeune, entre 11 et 14 ans. Et on était dans des... On dormait dans des familles. Soit c'était des familles d'expatriés... Et donc là, c'était un niveau social très élevé. Soit c'était des familles qui nous accueillaient dans les... Et là, c'était un niveau... Moi, un jour, il y a une famille qui nous a donné sa chambre. J'avais l'impression... Peut-être que j'ai pas tout vu, mais j'ai l'impression que c'était la seule chambre de... avec un toit de la maison. C'était vraiment... C'était une île au Guatemala complètement très, très pauvre, quoi. Et le lendemain, on est allé se laver au lac avec la... Enfin, c'était très, très pauvre, quoi. Donc... Il y a quand même pas mal de pays qui m'ont marqué, et surtout, mais pas marqué au sens... Parce que j'étais trop jeune pour être marqué au sens « Ah, la pauvreté !» Pas du tout, quoi. J'étais... à Cuba, on jouait avec des enfants, et puis après, la police, ils nous séparaient. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, et je me suis pas aperçue du truc politique qu'il y avait. Donc j'ai oublié pas mal de choses, et en même temps, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir vécu ces voyages de cette manière-là, tu vois. Parce qu'en fait, on est tous un peu pareils, hein, surtout quand on est enfant, tu sais. Franchement, il y a un truc, enfant, tu te rends pas bien compte de plein de choses, et du coup, en plus avec la musique...
À chaque fois, c'était des rencontres de chorale ?
Non, pas toujours, on faisait des tournées, donc c'était pas toujours des rencontres de chorale. Il y en avait, ouais. Au-delà tout ce qui est politique, là. Il y a quand même le cœur, quoi. Enfin, faudrait qu'on puisse encore se rencontrer par-delà ça, parce que sinon... Sinon, c'est déprimant, quoi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, là, je m'aperçois de ça. Il y a des gens dont la politique est en train de m'éloigner, en fait. C'est pas m'éloigner, moi, je... Enfin, c'est vraiment fatal, quoi. Et je me dis... Je me dis, on est pareil, en fait. Enfin, qu'on arrive... Je trouve qu'on n'arrive pas à vivre ensemble juste parce qu'on a des cultures différentes, parce qu'on a des tempéraments différents. Mais évidemment qu'on ne fait pas les choses pareilles, quoi. Mais il y a quand même quelque chose qui est pareil. Donc, c'est dommage qu'on s'intéresse tellement à la politique qu'on ne s'intéresse plus à ce qui est... Comment se rencontrer, quand même, tu vois ? Alors que c'est passionnant, quoi. C'est passionnant.
Alors, tu me fais penser à ce que peut dire en interview et puis dans ses romans une chanson douce.
Henri Salvador ?
Ah non, le roman. Leïla Slimani. Okay. Leïla Slimani.
Elle dit quoi ? Ok.
Non, mais la même chose que le politique, même s'il est nécessaire et passionnant, et peut déshumaniser l'autre. La rencontre de l'autre, de l'altérité, se fait avec un prisme qui est très biaisé et qui n'est pas fraternel.
Ouais.
Et pas humain.
Ouais. C'est facile pour moi de tenir ce discours alors que j'ai un passeport où je peux aller partout, je suis d'un pays qui est fort, on va dire économiquement, etc.
Et d'une nation qui est reconnue, qui a un gouvernement, qui a un siège à l'ONU.
C'est ça. Donc c'est ça qui est... C'est pour ça que tout à l'heure je me disais je suis un peu gênée de parler du mot territoire parce que déjà c'est une question qui me déprime et ça me gêne d'être déprimée. Enfin il y a tout un tas de choses un peu... Je sais pas. La politique c'est forcément là quoi. Et c'est chiant quoi. Mais c'est forcément là en fait. C'est forcément là quoi. Mais il y a deux lectures en fait. Et je comprends, en fait je comprends très bien que... le politique soit la chose la plus importante à un moment donné, parce qu'à un moment donné, ça c'est mon territoire, il me faut une maison, un machin, il faut que je sois en sécurité, c'est tout simplement politique en fait, il faut que je défende mes intérêts, etc. Et puis de l'autre côté, on peut pas s'arrêter là, parce que là par exemple le conflit qui est importé en France, on n'est pas là-bas, il n'y a pas d'Israéliens ni de Palestiniens ici, enfin il y a des Israéliens mais... En tout cas, j'ai des amis qui se sentent très proches des deux côtés. Et j'arrive plus à parler à amener cette lecture, pas philosophique, mais à faire passer l'amitié, tu vois. Et à dire... Parce que quand t'as des amis des deux côtés, toi en tant que Français, d'un point de vue politique, tu peux rien dire en fait, parce que t'es très mal placé. Et de l'autre côté, t'as envie de dire, mais putain, mais frérot, quoi qu'il arrive, on s'est choisi en ami, quoi. On s'aime, quoi, donc c'est l'impasse, quoi. Voilà. Ouais. Cette réflexion, c'est un peu l'impasse. Le politique ou l'humain.
Je voulais revenir sur ton parcours. Est-ce que t'enseignes, toi ?
Oui, dans des stages.
Ah, trop bien.
Ouais.
Donc, de manière ponctuelle.
Bon, c'est la première fois que j'ai fait ça cet été, et a priori, je vais le faire cette année à nouveau. Ouais.
Et ça, qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que ça te plaît ?
J'ai détesté ça pendant longtemps, donc je n'ai pas donné de cours. Et là, j'ai adoré le faire cet été.
Pourquoi tu détestais ?
Parce que j'avais l'impression que... Parce que ça correspondait à un moment où moi, je cherchais... ma propre voie. Et je me disais que c'était un peu le chemin que tout le monde devait avoir. Et je me voyais mal apprendre quelque chose à quelqu'un, je sais pas comment dire. Et puis j'avais pas envie d'enseigner les choses... les choses un peu basiques.
Ouais. Genre placement vocal, tout ça, t'avais pas envie de...
Ouais. Si, parce que placement vocal, c'est pas si basique que ça, c'est intéressant, mais improvisées ou tu vois, bon, alors tu prends les notes de l'accord, les basses, les machins, et puis vas-y, fais un tour de ça. Mais par contre, ouais, oui, bon, je pense que tout le monde rêve de faire plutôt des masterclass que des cours, hein, mais...
Non, je sais pas.
Ah ouais ?
Enfin, je sais pas. Je sais pas si... Tu vois, moi, je rêverais pas de donner des masterclass. Ouais. C'est même un format que j'aime pas trop.
Okay.
Le peu d'ateliers, voilà, ponctuels, publics que j'ai fait, bah, j'aime bien, mais je préfère vraiment le rapport hebdomadaire,
ouais,
et le suivi.
Ouais.
Vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir un jeune musicien ou une jeune musicienne s'épanouir, grandir, marquer des niveaux comme à Mario Kart, tu vois. Et
c'est clair, c'est clair.
Et voir la progression, et ça, je trouve ça très épanouissant.
Tu ouais.
Mais, alors, mais on peut ne pas aimer ça, enfin, vraiment, chacun son truc. Hein.
Non, non, mais le stage, en gros, le stage, c'est 6 jours, donc c'est évidemment une évolution. Mais quand je disais masterclass, c'est-à-dire que c'est des élèves qui sont déjà... Enfin, il y en a quand même certains qui sont vraiment en chant, qui étaient déjà... on abordait des choses, je ne les prenais pas au début, quoi, voilà, c'est
tout. Ouais.
Mais oui, oui. Après, toutes les semaines, moi, je crois que je ne pourrais pas... je serais là, genre... Je l'ai fait l'année dernière. En fait, toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où comme l'artiste, l'élève, il nous voit toutes les semaines, il se dit au bout de 2 mois, bah, c'est bon, j'apprendrai plus tard, quoi. Alors que les stages d'une semaine, tu vois, ils sont là, genre, ils doivent faire un concert à la fin, ils doivent vraiment magasiner tout le truc hyper vite et tout. Ouais. Ils font ils évoluent hyper vite, quoi. Ouais.
Donc c'est plus gratifiant pour toi.
Ouais, non, mais c'est plus...
plus intense, peut-être, aussi.
Ah ouais, c'est plus intense. Les liens, ils sont très, très forts entre les élèves et les profs pendant le stage.
Toi, t'as besoin d'intensité ?
Ouais, je pense, quand même. C'est sûr.
Est-ce qu'on peut parler de chez toi ?
Ouais.
C'est comment, chez toi ? Ton petit territoire ?
C'est... ouais, j'ai un appart génial. J'adore mon appart. J'ai un trip un peu sur les vieux meubles.
Ouais.
La vieille patine, tu vois. Donc, il y a beaucoup de... Ouais, il y a une vieille échelle de peintre. Il y a un vieil extincteur. Il y a du bois, etc. Et puis, comme en Allemagne, un peu, ils ont des intérieurs très, très douillets et cocon. Il y a aussi un peu de ça, voilà. Comme ça chez moi. Et puis, plus le bordel. Non, mais là, j'ai carrément acheté une échelle en me disant... Tu sais, à chaque fois, je jette mes affaires partout, tu vois. Et je me suis dit, je vais les jeter sur un truc et ça va rester stylé. Et du coup, je les jette sur cette vieille échelle. Et du coup, c'est... Il y a des affaires qui pendent de cette vieille échelle. Voilà. Tout ça pour essayer d'avoir un peu de classe.
Est-ce que t'écris chez toi ? Ou est-ce que t'es plus à l'aise pour écrire pas chez toi ? Quand t'écris ?
Ouais, non, c'est des fulgurances, donc ça peut être un peu n'importe où. Ça, c'est quand ça arrive, je me dis, allez, c'est parti, là. Tu vois, donc, peu importe où, quoi. Mais je suis bien chez moi, ouais.
Et quand t'es pas chez toi, de quoi est-ce que t'as besoin pour te sentir chez toi ?
Quand je suis pas chez moi, je suis pas chez moi. Je me sens jamais chez moi, chez quelqu'un d'autre. Je sais pas, je suis quand même un peu timide pour me sentir chez moi, chez quelqu'un d'autre.
Genre, est-ce que t'as des gris-gris dans ta valise ?
Est-ce que j'ai des gris-gris ? Non. Non. J'ai pas de gris-gris. J'ai pas de gris-gris.
Donc en fait, tu as juste besoin de rentrer chez toi ?
Pas forcément, mais oui, oui, ça c'est sûr, ouais. C'est sûr, ouais.
T'es casanière ?
En ce moment, j'hiberne, ouais.
Aujourd'hui, t'aurais pu, ouais. C'était une bonne journée pour hiberner.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, les deux, quoi. Les deux, les deux, les deux. Trop de fêtes, je deviens complètement ma boule. Et trop de chez moi, pareil. Voilà, les deux. Ouais. Après, faut qu'il y ait mes amis quoi autour, voilà.
Et pour revenir sur le voyage, parce que dès que je t'ai emmenée sur ce terrain, tu m'as parlé de tournée. Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Le voyage ?
Ouais.
Je crois pas être une grande voyageuse. J'ai jamais des rêves de voyage. Sauf si la Géorgie, j'aimerais bien aller en Géorgie.
Pour enfin
c'est ça.
Comprendre quelque chose.
Ouais. Ah mais non. Pas pour comprendre, pour être foudroyée, ouais. Certainement. Parce que c'est, à mon avis, c'est... Ce que je vois déjà à la vidéo, je trouve ça mais immense. Donc je pense que quand on est là-bas, ça doit être incroyable. Et puis j'ai remarqué un truc dans les voyages, c'est que pour le coup, quand on aime, on est accueilli en fait. Quand on reçoit ce que les gens nous donnent, on est accueilli en fait. En fait, quand on aime, on est aimé quoi. Enfin non d'ailleurs.
C'est pour ça qu'on écrit des textes.
Ouais. Ouais, j'ai envie d'aller voir les gens là de Géorgie. Mais le voyage, non, c'est pas trop bon.
Mais t'attends d'être foudroyée en fait.
Ouais.
Et finalement, t'as pas été foudroyée à Cuba, au Mexique, en Argentine, au Chili. C'est fou parce que c'est clairement des terres sur lesquelles il y a moyen.
Mais je crois que j'étais trop jeune. Hein. Mmh. La première fois que j'étais foudroyée, j'avais quand même 16 ans, 17 ans. C'était Schubert, donc. J'étais trop jeune, je crois. Ouais. Non. Et est-ce que j'aurais pu. Oui, je sais pas, j'étais trop jeune. Mmh. Non, pour être foudroyée, je pense qu'il faut, déjà avoir certaines plaies au cœur, je pense. Parce que c'est ça, le rapport au sacré pour moi. C'est d'être.
Il faut que ça pense quelque chose.
Ouais.
C'est à double tranche. Enfin, ah bah, c'est oui. Le revers de la médaille, quoi. Oh. Mais c'est beau en même temps, finalement.
Mais c'est comme s'il y avait un manque d'amour qui tout d'un coup se remplit. On est tellement heureux de voir des gens faire ça, et ça y est, on est ensemble, il y a un truc. Bah, c'est comme le gospel, quand on entend du gospel, on voit que c'est la joie, mais que ça vient d'un. Je sais pas comment l'expliquer. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, c'est une joie qui lutte, en fait.
Ouais.
C'est une joie qui est revancharde.
Ouais.
Bon, moi, ce serait peut-être le seul point commun que je pourrais trouver sur le continent américain en général, si je devais faire des généralités.
Ouais.
Ce serait ça, ce serait la joie comme un outil de lutte. Ouais. De dire, je me laisserai pas abattre. Bon, je pense plus, évidemment, à l'Amérique du Sud que du Nord, mais enfin, bon, il y a tellement de peuples opprimés en Amérique du Nord que...
Ouais.
Parce que tu parles du gospel, et effectivement, ça me fait... Voilà, ça résonnait comme ça en moi, mais cette manière de dire tu m'as fait du mal, mais en plus je vais vraiment te narguer quoi.
Ouais.
Je vais être joyeuse.
Ouais.
Et ce sera mon doigt d'honneur quoi.
Ouais.
C'est une attitude qui me plaît.
Ouais.
Que je trouve avoir beaucoup de panache.
Ouais, ouais. Et puis ça passe hein, quand on entend. Moi quand j'entends Whitney Houston, je suis là.
Ouais.
Ok.
Ouais, on a les deux.
Ouais.
On a le.
Ouais.
Et c'est qui les artistes qui te foudroient ? Donc on parle plus de Schubert, on parle d'autres chanteurs chanteuses.
Il y a Omar Aportuondo à Cuba.
Ouais. Ah bah mine de rien, donc il y a quand même un truc qui se passe avec la culture cubaine.
Ah ouais.
Mais que t'as pas rencontré jeune.
Mais c'est ça vient de Schubert, Cuba. Non je rigole. Ça c'est vraiment un discours. Colon quoi. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me rappelle en fait ce premier foudroiement parce qu'il y a une espèce de. Il y a une pudeur en fait. Moi, la pudeur, c'est ce qui me met par terre. Pour moi, c'est un des trucs les plus. Oh incroyables au monde, pour moi. Et il y a ça dans la musique humaine. Et ouais. Ces chanteuses-là, elles chantent quelque chose de très intense, mais. Enfin voilà, j'adore Omar pour tout le monde. Je suis complètement fan.
De quand Omar Aportuondo chante 20 años,
ouais.
La Théo.
Ah ouais.
C'est aussi bien que Schubert.
Oui.
Ouais. Et Celia Cruz ?
Je connais pas bien. Mais non, c'est pas comme. Oui, j'adore, mais c'est pas.
C'est pas Omar.
Un foudroyant. Ouais, c'est pas un foudroyant. Ça m'a pas foudroyé. Whitney, elle m'a fait des trucs aussi. Bon, Omar, c'est vraiment. Moi, j'adore Nina Hagen aussi.
Ouais.
Je suis une grande fan de Nina Hagen.
Mais c'est pas un foudroiement, c'est juste, plus c'est ma, elle, c'est ma sœur, quoi. Le sentiment de, ok, bon, il y a aussi une sœur.
J'ai une famille, en fait.
Oui, c'est ça, j'ai une famille, exactement. Exactement.
Donc, j'ai un grand-père qui s'appelle Franz S.
Franz S ? C'est qui ça ?
Schubert.
Ah oui ! Ah oui, j'ai un grand-père. Oui, alors, oh là là, est-ce que c'est un grand-père ? Oh, non, mais Franz, ouais, incroyable.
Ou une âme-sœur.
Ouais, faut, je sais pas. Mais ouais. Et ouais, et Nina Hagen, ouais, j'adore Nina Hagen. Ma mère, à chaque fois, elle en peut plus que j'aime Nina Hagen. Elle est là, oh là là. C'est cet oiseau un peu foufou, quoi.
Attends, parce qu'il y a d'autres oiseaux foufous. Il y a Björk.
Ah, mais ça, c'est pas ma... Non. C'est pas ma famille, ça. C'est pas que... C'est juste pas ma famille, tu vois.
Ouais.
Mais non, c'est pas la même... Tu vois un peu la différence ? C'est un clown, en fait, Nina. Voilà. Qui est-ce qui en ce moment ? Leïla Martial, je l'adore.
Ah, moi aussi.
Voilà. Ça, c'est ma... Ouais. Et puis, je lui ai
parlé... Pourtant, vous êtes... Non. Vous faites pas la même chose,
quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais alors, par contre, je l'ai rencontré cet été et on a passé une soirée ensemble. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup.
Mais qui n'aime pas Leïla Martial ?
Ouais, c'est ça.
Au début, je croyais que ta chanson, c'était pour elle. Mais en fait, non.
Pas du tout. Non. Non, non, mais... Ah ouais, elle est géniale. Mm-hmm. Donc, une autre, non, parce que je sais que tu vas me demander qui est-ce que je recommande.
Une autre. Garde-le pour la suite,
Ok.
Si je te donnais un établissement artistique à diriger, qu'est-ce que tu mettrais dedans ? Puisque tu as détesté enseigner, justement, donc tu as des revendications à faire.
Ouais. Ah oui.
Donc voilà, je te donne, voilà, il y a le Planchou Institute. On met quel cours dedans ? Pour former des artistes ou être artiste sur le territoire.
Bon, et je suis pas une grande fan de l'enseignement, hein, mais
je me sens pas prof. Qu'est-ce que tu lui reproches ? Voilà. Du point de vue de l'élève, alors.
Mais justement, quand je suis arrivée en Algérie, je trouvais ça pas mal parce que tous les profs étaient un peu fun. J'avais l'impression. Ce que je lui reproche à l'enseignement. Je pense qu'en fait, pour être très honnête, c'est normal qu'on doive transgresser le cadre de l'institutionnel. Je trouve que dans le jazz, c'est transmis aux élèves qu'il faut transgresser. Dans le classique, pas trop. Et ça, c'est dommage. Mais si, je pense qu'en fait, la technique est importante. que si, moi je trouve que quand même pour composer, il faut apprendre à composer. En fait, je pense, oui. je crois, voilà, je le crois, je pense vraiment ça. Je constate que Stravinsky sait composer plus que moi,
le
tu
titre
vois.
De l'émission.
Et oui. Non, mais c'est une époque où il y a des maîtres, où il y a des, oui. des tu vois, des lois mathématiques et qu'on les transgresse. Comme eux l'ont fait, quoi.
Et ça crée de nouvelles règles, ouais. etc.
Oui, c'est vrai. Non, ce qu'il faut pas oublier, je pense, c'est de vivre. Et je sais pas comment on peut le transmettre, ça. Je suis très très mauvaise en transmission. Je sais pas comment on, voilà, transmet ça. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut pas oublier de c'est ce qu'on disait au début, de vivre, d'avoir une approche au monde qui soit quelque part poétique. Quelque part authentique, avec le cœur, quoi. Parce qu'en fait, quand même, dans l'art, on parle de ça, on parle du monde, on parle de la vie, des gens, du sacré, de la politique parfois, donc il faut aller, on ne peut pas rester que dans l'école, quoi, c'est pas possible. Et en même temps, il faut savoir l'exprimer, donc savoir l'écrire bien. Mmh. Enfin, bien. Oui, c'est être capable de l'écrire... de le transmettre. Y a un reportage de Wayne Shorter qui est très intéressant, où il regarde un solo de lui, et donc ça y est, il est dans le vortex, hein. Il y est, machin, il est connecté, il est en train de dire, raconter des trucs, et tout d'un coup il fait « Ah !» Et en fait il explique que techniquement, il n'arrive pas à faire la note aiguë, et que du coup, la technique le coupe en fait, oui. De ce flux, oui. machin. Donc les deux sont liés en fait, et je pense que... Voilà.
Bah ça, on s'en rend compte en classique aussi, je trouve. Ouais. C'est que tant que t'es pas, non pas à 100%, mais à 200% à l'aise avec l'exécution instrumentale, tu pourras pas être dans ton discours. Parce que tu vas être, enfin moi je pense à mon instrument, au violoncelle, je pense que c'est universel, tu vas être exactement dans le même point que Windshorter, tu vas dire oh là là, j'ai peur de ce passage parce que j'ai peur parce que c'est super dur et que je peux le rater, au lieu d'être dans ton discours, comme on n'imaginerait pas une seconde un comédien appréhender une tirade en se disant est-ce que je vais m'en souvenir, c'est pas possible, t'es pas dans le bon endroit si t'es là-dedans.
Ouais, ouais.
Donc c'est...
Ouais, mais c'est même plus, je me suis aperçue que il y a un moment donné, si tu veux travailler ta technique, il faut que tu travailles, faut que tu te développes en fait personnellement. Mm. Par exemple, si tu veux être libre vocalement, il faut que t'ouvres la bouche, t'ouvres les faut que t'ouvres en fait tes poumons quoi.
Pour ouais, de vrai. Ta cage thoracique et ton diaphragme.
Déjà l'inspiration, il faut qu'elle soit complètement ouverte et donc libre en fait. Ça veut dire que il faut que c'est presque plus de la technique en fait au bout d'un moment. Mais bon.
C'est un être au monde.
Ouais. Mais c'est comme les trucs de, tu sais, kung fu, les samouraïs, tout ça. Il y a un moment donné où tu passes des étapes qui sont comme apprendre à vivre, en fait. Mm. Et ouais. Qu'est-ce qu'on disait, voilà.
Du Planchou Institute.
Du Planchou Institute.
De ce qu'on met dedans. Enfin, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est aux États-Unis, mais...
Écoute, moi, je crois que là où j'ai appris... Moi, j'étais vachement au Zorba, je sais pas si tu connais le Zorba.
Ouais, à Belleville.
Voilà. Et le Zorba, c'était l'anarchie. Parce que c'était tenu par un type c'était les gars du CNSM qui organisaient la jam. Mais si, il y avait un type du coin qui était, bon, un type complètement arraché, qui savait pas jouer une note, qui venait prendre le piano, personne ne l'interdisait, en fait. C'était tellement l'anarchie, si tu veux, que bah, tout le monde était là, donc on jouait avec lui, etc. Et cette anarchie-là, ben, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un Zorba dans mon Planchon Institute. Voilà, c'est surtout ça.
Donc en fait, ça peut être n'importe quelle école, puisque ton école, ce sera le bar d'à côté, quoi.
L'école, c'est là que ça va se passer. Le bar d'à côté.
À partir de 21h.
L'école, ce sera les profs, c'est surtout les profs. Et ça, je choisirai les profs. Et puis le bar d'à côté, oui, c'est sûr, il y aura ce sera les profs et le Zorba, quoi.
Mais post-MeToo.
Ouais.
Tant qu'à faire.
Bah, c'est-à-dire surtout, je prendrai des gens, parce que j'en ai des potes hein, qui sont capables de mettre des coups de boule à des gars qui se comportent mal, quoi. Que ce soit réglé, quoi, tout de suite sur le terrain, quoi. Il n'y a pas de « on est tous d'accord, on fait ça, on fait pas ça, on va pas faire des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes. » Moi, on est tous d'accord. Enfin, moi, ça me paraît d'une évidence, mais absolue, que on est tous... Oh là là, ça y est, on va commencer à réfléchir à des trucs compliqués.
Mais non.
Bah oui, moi j'en ai marre. J'ai hâte que ça se termine, en fait, cette époque. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre que ça se passe comme ça, que... J'en ai marre qu'on doive y réfléchir, en fait. Voilà, ça m'énerve, en fait. C'est... Moi, je veux être sur scène, je veux jouer, je veux dire ce que j'ai à dire. Parce que je suis une femme, certainement, je me dis d'une autre manière. On s'en fout. On est en train de faire la musique, là. Donc, ce qui doit sortir, c'est de la musique. Voilà, j'ai hâte que ça passe, parce que j'en ai ma claque, quoi. Franchement, c'est aberrant. Il y a des choses qui se passent qui sont aberrantes dans ce milieu. Mais vraiment, c'est scandaleux, là. On parle même pas de... il m'a dit que ma jupe était trop courte. Il y a des choses qui sont scandaleuses dans ce milieu. Et tout le monde le sait. Personne ne dit rien. Et c'est... Voilà, c'est... J'ai hâte que ce soit terminé, en fait. Voilà.
Ouais, c'est ce qu'on disait avec Aliette Delalleux, quoi. C'est qu'on sait tout.
Ouais.
Et ça sort pas. En tout cas, en classique.
Mais il y a des raisons pour lesquelles ça sort pas. Hein.
Oui, c'est qu'on veut pas briser nos carrières. Et aussi, peut-être pas avoir une image de victime.
Ouais. Oh, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Hein. Y a beaucoup de raisons. Mais c'est le carnaval. Mm. C'est le carnaval. Et moi, j'ai un paquet de chansons, là, que je vais chanter bientôt, qui sont autour du carnaval.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que ça m'évoque vraiment ce qui se passe dans ce milieu sur ce sujet-là. Là. Pour moi, c'est le carnaval, en fait. C'est la culture du... Parfois, j'ai des visions de fêtes où ça swing encore plus, et ça swing encore plus, avec des gars qui ont fait des choses ignobles et ça se tape dans le dos, la bière coule à flot, et en attendant, la fille, elle est en train d'essayer de se reconstruire chez elle. Ouh, ça, pour moi, c'est le carnaval. Mmh. C'est vraiment... c'est n'importe quoi, tu vois. Et cette ambiance-là, je la chante déjà un peu sur scène, sans dire, évidemment, que c'est pour cette raison-là, mais... Ouais, ça m'énerve, quoi.
Bon, en tout cas, c'est bien parce que tu laisses une trace artistique de la manière dont on pense aujourd'hui aussi.
Ouais, peut-être. Oui, je suis pas militante, par exemple, hein, mais par contre, y a un contexte, et ce contexte m'énerve. Donc cette colère passe dans la musique, ouais.
Voilà. Même avec les mots d'autres auteurs ou autrices.
Ah, surtout avec des gens qui n'avaient pas prévu de dire ça, ouais. Adieu, pauvre carnaval, bah oui.
Ah oui, donc tu n'expliques pas, mais toi, tu sais ce que t'as comme sous-texte.
Ah oui, complètement, mais c'est ça, pour ça que je fais du jazz. Hein.
Ouais.
Ouais, j'y remets mon propre sous-texte, ouais. D'aujourd'hui, voilà.
Trop bien. Est-ce que tu penses... Alors, évidemment, après tout ce qu'on s'est dit, c'est un peu bizarre comme question, mais je peux te laisser être utopiste. Quel serait ton territoire idéal ?
Comme je fais de la musique, et que cette colère-là... elle me sert. Parfois, je me demande si ça m'arrange pas que le monde est tel qu'il est. C'est pour ça que je suis pas militante. C'est-à-dire que toutes les difficultés auxquelles on doit faire face provoquent une émotion qui me sert quand je chante. Voilà. Après, effectivement, je serai contente quand tout sera terminé. C'est un peu trop là pour les femmes. Mais moi, mon territoire, je suis très bien. J'ai un toit et j'ai des potes et en vrai, ça va, je suis bien. C'est bien mon territoire.
Tu penses que dans un monde qui va bien, il n'y a pas d'artistes ?
Non, je crois pas. Je crois pas. Je parlais de moi là, parce que il y a des gens qui font, il y a beaucoup de registres en art. Il y a des gens qui, par exemple, sont que dans le sacré, donc ça c'est un autre registre. Dans un monde qui va bien, est-ce que... oui, non, si. Je pense que oui, on peut aller bien et faire de l'art. C'est possible, oui. D'ailleurs, j'ai hâte de faire de l'art quand j'irai bien. Non, je rigole. Mais je veux dire. Parfois, par exemple, je chante toujours des histoires d'amour tristes et je me dis, je serais contente le jour où je chanterai où je pourrais chanter Mystique, quoi, à nouveau, etc. Des trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est possible de chanter, j'en suis sûre.
De chanter le bonheur ?
Ouais.
Tout simplement.
Ouais.
Tu chanteras, il y a de la joie.
Ouais. Ouais.
Bonjour.
Ah ouais. Ah non, mais je pense que quand on a été dans le tunnel et qu'on est vraiment joyeux, c'est incroyable de chanter la joie. C'est génial, quoi. Il y a un truc qui sort. Ah bah ouais, c'est génial. Non, mais même... Enfin, en fait, tous ceux qui... Non, mais oui. Bien sûr. Là, quand tu vois, là, quand j'étais à Cuba et je voyais les gars chanter, danser la salsa là, dans la rue, comment ils souriaient. Il y a une espèce de truc qui sortait comme ça. Qui était genre le soleil, quoi.
Moi, il y a un truc qui m'a vachement plu à Cuba. En voyant les groupes dans la rue aussi, ou dans les bars, enfin, c'est que chacun respecte son rôle. Et que quand tu te fais la clave, tu fais que la clave. Et t'es pas frustré en disant « Ah, si seulement j'étais à la place du trompettiste ou de la chanteuse, j'ai l'impression que nous, on peut mettre beaucoup d'ego dans certaines choses. »
Ouais.
Et qu'il y a des mondes dans lesquels on le fait beaucoup moins.
Ah ouais. Ouais. Je sais pas.
Où on se gargarise peut-être de complexité technique. Ou...
Ah ouais. Oui, non mais... Je sais pas.
Alors qu'en vrai, la musique cubaine, ça tient sur 3 accords et...
Ouais.
Tu vois, je pense à Candela, il y a 2 accords. Mi, ouais. La, mineur.
Ouais.
Voilà.
Après, c'est vraiment
la, mi, trop 7, cool. Et c'est de la balle, et ça pourrait durer 26 minutes, que tu tasserais pas une seconde de ce thème.
C'est clair. C'est trop bien.
Et il y en a, ils font la même chose du début à la fin de la chanson, c'est...
C'est clair.
Après, il y en a qui chorus et ça chorus à mort.
Mais... Ouais. Mais dans les Occitans, ils font beaucoup ça en ce moment là. Ils répètent des. Enfin, c'est vraiment la trance, la musique folklorique. Ouais. Et le but, c'est que ça tourne. Ouais, ouais. Ouais, c'est trop stylé ça. C'est trop... Après, la musique cubaine, c'est incroyable aussi. Enfin. Bon.
Ah, les héritages sont intéressants, quoi.
Ouais, oui, oui. Oui.
T'as d'un côté les afro-descendants, de l'autre les meilleurs musiciens du RSS. Et on fait, venez, on fait des trucs ensemble. C'est pas mal.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Comme quoi, c'est bien de se mélanger.
Ouais.
On a le droit.
Est-ce qu'il y a des lieux culturels que tu voudrais recommander?
Ouais, je suis allée à Uzest cet été. Festival d'Uzest.
Ouais.
Bernard Lubat et Mainvielle. Et c'est là où j'ai vu Laila Martial d'ailleurs. Bon, ça c'est génial, il faut absolument y aller. Il faut le voir, hein, c'est sûr.
Si on a une petite âme anard.
C'est ça.
Je mettrai une petite condition.
Si, oui, oui.
Sinon, tu peux ne pas passer un bon moment.
Oui.
Tu peux peut-être trop perdre de repères.
Oui, oui, c'est clair. Mais, ouais, si tu veux. Si tu veux tester l'anarchie,
vas-y. C'est ça, c'est un village d'irréductibles occitans.
Exactement. Exactement.
Pour finir, bon, du coup, tu sais ce que je vais te demander. Qui est-ce que tu voudrais entendre à ce micro?
Moi, je pense qu'il faut inviter Paloma Pradal.
Ouais.
Parce que c'est une artiste vraiment très, très, très intéressante, quoi. C'est... Ouais, moi, quand je l'ai vue pour la première fois, ça a changé pas mal de choses, quand même, pour moi. En tant que chanteuse qui évoluait dans le milieu du jazz, je m'en voulais de plein de trucs, je me sentais pas adaptée, plein de trucs, parce qu'il y avait des codes de féminité aussi, et de chanteuse, que j'arrivais pas, machin. Et elle, en fait, quand je l'ai vue, j'ai fait, ah ok, en fait, on peut, ok, on peut faire ça. Et en plus, elle y a réfléchi, en plus, elle réfléchit toujours à la musique, à la démarche, elle le fait, elle chante, je veux dire, ça sonne, c'est pas juste de la réflexion. Mm. Et c'est très puissant. Donc je pense qu'elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et qu'il faut absolument inviter, ouais. Et puis j'ai, mon pote Nébile, mais bon, ouais, qui a un groupe de musique qui est tunisien et qui écrit ses propres textes et sa musique. Et lui, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire aussi.
Trop bien. Ouais, justement, ça me fait penser, tant pis, on fait une parenthèse finale. Je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup en tant que chanteuse sur... la manière dont on se présente au public, parce que j'ai la sensation qu'une chanteuse, c'est forcément une espèce d'objet qui doit être très désirable, et ça me pose beaucoup de problèmes éthiques. Mais en même temps, je veux dire, est-ce qu'on a déjà vu une chanteuse ne pas se faire belle, tu vois? Enfin, c'est une vraie question que je me pose. Après, je pense qu'on peut élargir beaucoup plus largement à femmes musiciennes sur scène. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te places par rapport à ça?
C'est une question que je me pose tout le temps. C'est une question centrale. J'arrive pas à y répondre. Et je pense que quand je suis sur scène, j'oublie la question.
Ouais.
Du coup, ça marche.
Tant mieux en même temps.
Ouais. Mais du coup, moi, je peux pas me voir, par exemple. Je peux pas je peux pas revoir des vidéos. Je trouve ça horrible. Parce que je trouve qu'une chanteuse, dans mon inconscient ou dans ma névrose, je sais pas, mais elle doit se présenter bien, elle doit être belle, désirable, elle doit donner envie, etc. Et alors que moi, les chanteuses que j'aime, genre Omara, je l'aime parce que j'ai l'impression que
c'est mal. Fou.
Mais oui, et j'ai l'impression qu'on est très proches, tu vois.
Ouais.
Enfin, il y a une proximité. Quand même, la chanteuse, elle... Ça peut être la sœur, la tante, la meuf dont t'es jalouse.
Ouais.
Y a plusieurs chanteuses, quoi. Et moi, celle que j'aime, c'est les sœurs, les tantes, quoi. Celles
ouais.
qui, tu vois. Donc, je sais pas... Je vraiment, cette question féminité, chanteuse, je sais pas trop. J'y ai pas encore... je sais pas. Faudrait que je me regarde pour répondre à la question, mais...
Non, mais tu sais, ça me rassure déjà de pas être toute seule à me poser ces questions-là, tu vois. D'être... De voir que le... Par exemple, tu vois, pour une photo de projet, je vais vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de transmettre.
Ouais.
Je pense qu'il y a quelques années, je voulais juste être jolie sur la photo.
Ouais.
Et maintenant, j'essaye de travailler sur moi, en me disant, mais attends, mais pourquoi tu veux être jolie? Enfin, tu vois, pourquoi il faudrait que la chanteuse du projet soit mignonne?
Ouais.
Et pourquoi il faudrait te maquiller? Et pourquoi il faudrait
ouais.
montrer de la peau? Tu vois, si j'étais un homme, j'aurais pas besoin de montrer ma peau.
Oui.
J'aurais pas besoin de me dire, attends, t'as les yeux clairs, montre-le.
Mais moi, moi, j'ai pas envie d'être désirable quand je chante. Ouais. Ça. C'est même pas que j'ai envie ou pas envie. C'est que je suis pas en train de faire ça, là, tu ouais. vois. Par contre, je sais que si je monte sur scène avec une salopette, je sais que tout le monde va se dire, ah, ouais, d'accord, ah non, elle est en salopette, elle est pas en robe, ouais. tu vois. Et ça, c'est le point, j'ai pas non plus envie, tu vois, que les gens, de faire un truc politique. J'ai pas envie, j'ai envie de chanter. Donc du coup, je suis un peu obligée d'utiliser les codes pour le moment. Enfin, je sais pas quoi faire de tout ouais. ça, tu vois.
T'es polie, en fait, finalement, pour ouais. l'instant. Tu respectes cela, hein.
Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a grignoté le cerveau à une époque. Et puis j'ai décidé d'arrêter parce que j'aime pas que... En fait, c'est comme ce truc, est-ce qu'on est vraiment égaux, en fait, les hommes et les femmes? Moi, je pense que dans le Planchou Institute, on sera là pour faire de la musique et pour chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, moi, j'utilise... Fait, ce qui, enfin... Ce qui m'intéresse, c'est que... ce qui m'intéresse, c'est que mon groupe et moi, on travaille, on œuvre ensemble à ce que ça sonne, tu vois.
Ouais.
C'est pas je monte sur scène, je m'en fous complètement de me sentir désirable sur scène, mais vraiment c'est, enfin, il y a d'autres trucs pour ça, tu vois, et c'est pas ça, quoi, je veux dire, il y a d'autres trucs à penser, quoi, enfin, mais je comprends que certaines filles soient là-dedans, tu vois, mais du coup toi, quand t'es pas là-dedans, tu te poses des questions un peu, mais bon. Ce serait bien qu'on se débarrasse toutes de...
Oui, parce que tu vois, ce qui est injuste, c'est que pour nous, c'est une question, et pas pour les hommes hétéros
ouais,
classiques.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Ils se disent pas, merde, est-ce que je suis sujet ou objet de désir quand je suis sur scène? Enfin, bon, remarque, je présume, peut-être que si, mais...
Ouais. Ouais.
Quelque chose me dit que non.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour le coup, moi, j'ai pas le problème d'être... Parce que je sais qu'il y a des chanteuses, c'est leur problème. Il y a des filles qui disent, des chanteuses, j'en ai marre et tout, d'être objet de désir.
Ouais.
Bah moi, c'était le contraire. Je me disais, comme dans le jazz, les femmes sont souvent objets de désir, comme moi, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, comme c'est pas l'intention que j'ai quand je monte sur scène, j'ai l'impression d'avoir un problème.
Ah oui.
Donc, dans les deux sens, les femmes sont toujours, pour l'instant, elles sont pas tranquilles dans leur démarche, tu vois. Et c'est là où il faut un peu... C'est pour ça que je disais, c'est bien... On n'arrive pas à vivre ensemble et à comprendre qu'on est différent, tu vois. Si t'as envie d'être désirable sur scène, très bien. Et si t'as pas envie, très bien. En fait, qu'est-ce que, tu vois. On va pas réfléchir 3 heures sur est-ce qu'il faut ou pas être. Non, c'est juste... quand est-ce qu'on va, nous, se lâcher la grappe toute seule, ouais. tu vois. Et pas se faire de nos cerveaux alors qu'en fait, on a juste à assumer notre désir. Enfin, tu vois, c'est juste ça, en fait, là où j'ai hâte que ça se termine, ça, cette époque-là.
Bon. Bah, c'est s'affirmer en tant que sujet, c'est toujours pareil, quoi.
Ouais.
C'est attendre, qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que moi ça m'intéresse? Bah, c'est ouais. pas encore réglé, mais comme tu dis, on a hâte que ça se débloque. Merci beaucoup, Charlotte, de t'être prêtée au jeu.
Merci, Clémence.
C'était passionnant.
C'était passionnant, ouais. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner sur les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite bonne route et à très vite dans La Carte et le Territoire.